Alors, bienvenue pour ce dernier amphi de restructuration sur la méthode des éléments finis. Donc, je vais commencer par un message un peu plus général sur pourquoi est-ce que vous avez suivi ce cours d'analyse et de calcul scientifique. Donc, la première chose, c'est que c'est un cours qui permet de donner des outils à la fois théoriques et aussi numériques, donc théoriques et numériques, pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Donc, soit des évolutions temporelles, donc là, l'exemple prototypique qu'on a vu, c'est des équations d'évolution du type y point égale f de ty, mais aussi des problèmes stationnaires, comme donc des équations dérivées partielles, comme celles que l'on voit en mécanique, comme moins laplacien u égale f, ou des équations plus compliquées, comme celles de l'élasticité. Donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce que je vous ai introduit toutes les notions de distribution, l'espace de Sobolev pour étudier ce genre d'équations, et notamment les équations dérivées partielles. Et tout ça, c'est vraiment lié au fait que le membre de droite, ici, qui apparaît f, c'est pas un terme régulier, ça peut être quelque chose de discontinu. Par exemple, ce problème que j'aime bien de thermique, où on a un radiateur dans une pièce, éventuellement on a une fenêtre à un autre endroit. Donc il y a des zones avec des sources de chaleur. Ici, la source de chaleur, c'est F égale 1 sur cette zone. Et puis, il y a des zones de déperdition, puis il y a peut-être un deuxième radiateur. Et en tout cas, la fonction F qui apparaît ici n'est pas continue. Donc, ce n'est pas complètement clair, ici, le sens de l'égalité. En particulier, ce n'est pas une égalité au sens des fonctions continues. Donc, les outils qu'on a vus dans ce cours, ça sert à interpréter ce genre d'équation, moins U seconde égale F, au sens des distributions. Et en fait, dans L2 de oméga, quand le membre de droite est dans L2 de oméga. Mais sinon, éventuellement, ça pourrait être aussi... on a vu des cas où c'était, en fait, dans H-1, là, F. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est du coup considérer une méthode numérique qui permette d'approcher ces solutions qui ne sont pas régulières. D'abord, d'avoir une méthode qui... savoir qu'il existe existence unicité d'une solution au niveau continu. Enfin, continu, ça veut dire non discrétisé. Ensuite, du coup, pareil, existence unicité pour le problème discrétisé. Et puis après, la troisième chose, c'est des estimations d'erreur. Donc ça, c'est un peu les trois étapes que l'on aime bien en analyse numérique. La première étape, l'existence unicité du problème au niveau continu, c'est pas juste pour le plaisir de faire des théorèmes, mais c'est aussi parce que s'il n'existe pas de solution, ce n'est pas la peine de l'approcher numériquement. Et s'il y en a plusieurs, il faut un critère qui les distingue. Une fois qu'on a un problème bien posé au niveau continu, on se demande si c'est la même chose au niveau discret. L'estimation d'erreur, c'est ce qui permet de certifier les méthodes numériques et de savoir si on peut avoir confiance dans le résultat numérique ou pas. Bon, donc ici, pour revenir au problème, à une formulation variationnelle du type l'exemple modèle du cours, c'est l'intégrale, par exemple, entre 0 et 1 de U'V' égale l'intégrale de FV 0 et 1 pour tous les V qui sont dans H1, 0 de 0, 1, et puis avec chercher U qui est dans H1 de 0, 1 tel que cette égalité là soit vraie. Donc ça, c'est l'exemple canonique qu'on avait dans ce cours, qui est le problème de référence. Et donc ce qu'on veut faire numériquement, c'est remplacer l'espace de dimension infinie, typiquement H1, 0 là dans mon exemple, par un sous-espace de dimension finie VH. Et donc là, il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on a vu dans ce cours, c'est des choses qui sont spatiales, avec des éléments finis, c'est-à-dire qu'on a un espace tridimensionnel, puis on va faire des petites mailles, et puis on va considérer des fonctions qui valent 1 à un certain endroit, 0 à d'autres. Donc là, je vous ai fait un dessin un peu plus grand dimensionnel, mais ce qu'on a vu, nous, dans ce cours, c'est des choses en dimension 1, où on a des fonctions qui sont très localisées spatialement. Après, il y a aussi des méthodes spectrales, avec des séries de Fourier, des ondelettes, enfin des choses qui utilisent des représentations spectrales de l'opérateur sous-jacent, de la partie dominante de l'opérateur sous-jacent. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans ce cours. Et globalement, on a toujours considéré des méthodes conformes pour lesquelles l'espace de discrétisation est inclus dans l'espace de Hilbert sous-jacent. Donc ça nous amène à un problème variationnel approché. On cherche un UH dans cet espace de dimension finie, tel que la formulation variationnelle restreinte à VH, enfin, qui soit solution de la formulation variationnelle restreinte à VH. Et donc, tout de suite, je dis qu'il n'y a pas de lien simple. Il n'y a pas de lien simple entre U et UH. Hein. C'est important, ça veut dire que entre U et UH. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est la projection de l'autre, ou une interpolation de l'autre, ou quoi que ce soit. Donc, ça, de manière générale, dans ce cadre, il n'y a pas de lien simple. Mais on va essayer d'avoir une estimation d'erreur malgré tout. Alors, première chose, c'est que le problème discret est bien posé, parce qu'on est toujours dans les hypothèses du théorème de Lax-Milgram, et que l'estimation d'erreur que l'on obtient par le lemme de CA est quelque part optimale. C'est-à-dire qu'à droite, ce qu'on peut imaginer, c'est un espace VH ici, et puis un élément U qui n'est pas dans VH a priori. Et ce qu'on peut regarder, c'est l'élément ici de VH qui est le plus proche de U. Et du coup, là, ça fait une certaine... cette inf, là, c'est exactement ici la distance que l'on dit. Et donc, ce qu'on dit, c'est que le UH, il est quelque part d'autre. Ce n'est pas cette projection de U, mais quelque part d'autre. Et ce qu'on dit, c'est que la distance entre U et UH, c'est du même ordre de grandeur que la distance de U à l'espace VH. Donc ici, ça, c'est un résultat qui est, en anglais, on dirait sharp. En français, on dit optimal. Et qui dit qu'effectivement, l'erreur entre U moins UH, c'est proportionnel à l'erreur d'approximation de n'importe d'un élément de U par un élément de VH. Et donc avec un préfacteur qui est lié aux caractéristiques de la fonctionnelle sous-jacente. Alors du coup, ça demande effectivement de contrôler cette erreur de projection qui est cette quantité-là. Et donc ça va être l'objet des questions des transparents suivants, et ça dépend vraiment de la méthode qui est considérée. De manière générale, ce qu'on peut faire dans tous les cas, c'est reformuler matriciellement le problème sous la forme AU égale B, en introduisant les matrices d'éléments A, IJ qui est A de phi J, phi I. Et attention, c'est J d'abord et I après. Donc il faut bien faire attention à l'ordre quand la forme bilinéaire A n'est pas symétrique. Et puis B, c'est B de phi I, qui en pratique peut être calculé quand c'est une intégrale de phi contre... Par exemple, là, le B de phi, c'est l'intégrale de F contre phi I. Et souvent, en pratique, pour calculer ça, il faut des quadratures numériques. Voilà. Et donc, il y a les propriétés de la matrice grand A qui se déduisent des propriétés de la fonctionnelle petit a. Par exemple, A est positive définie si A est coercive. Et du coup, A est symétrique si petit a est symétrique. Donc ça, c'est des propriétés qui sont importantes pour la résolution numérique. Par exemple, pour faire des méthodes du type gradient conjugué pour résoudre le système linéaire. C'est-à-dire qu'en pratique, quand les matrices sont grandes, on ne résout pas, on n'inverse pas ce système linéaire, le système linéaire AU égale B, mais en fait, on utilise une méthode itérative de résolution fondée sur typiquement un algorithme de gradient conjugué. Alors du coup, on a vu un exemple pratique qui était les éléments finis, qui sont P1, donc constant affine par morceau, en dimension 1 d'espace. Donc évidemment, on peut généraliser ça à des éléments finis PK avec des polynômes d'ordre K par un morceau, et puis éventuellement aussi les considérer en dimension plus grande. Donc tout ce qu'on a vu, c'était pour des fonctions qui sont nulles au bord, sinon il faut un petit peu adapter les arguments. Et donc sur un domaine de type 0 grand R, avec des points ici, là, un point qui serait XI, qui serait IH, avec un certain pas de maillage H qui fait que ça tombe rond. Comme toujours, il faut prendre des pas de temps, des pas d'espace commensurables. Et donc l'espace d'approximation, ce sont des fonctions qui sont continues, qui valent 0 au bord et qui sont affines par morceau. Donc typiquement des choses qui partent de 0 et puis après c'est affine par morceau et puis on revient à 0. Voilà, ça c'est des fonctions typiques de l'espace VH1. Donc ça, on peut vérifier que c'est un espace conforme et que il y a une base de fonctions qui sont données par ces fonctions chapeau qui valent 1 en un des points XI et puis 0 aux autres. Et donc un résultat qui... Cet espace VH1, pourquoi on l'aime bien? Parce que notamment, il y a un résultat d'interpolation qui dit que l'erreur dont on va avoir besoin pour appliquer le lemme de CA, l'erreur en fait d'approximation d'un élément V est contrôlée par C fois le pas de maillage H fois la norme seconde, fois la norme L2 de la dérivée seconde. Donc ça, c'est un résultat qui va nous permettre, qui va être important pour l'estimation d'erreur. Voilà, alors du coup, la manière de faire la preuve, ça va être, donc quand on revient à ce problème modèle, moins U seconde égale F, ça va être déjà de réaliser que moins U seconde égale F, en fait, faut réécrire ça sous une formulation variationnelle. Donc cette formulation variationnelle ici, qui est équivalente à résoudre, en fait, moins U seconde égale F, ça étant posé au sens des distributions. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir faire d'abord, un, le lemme de CA, et deux, l'estimation d'erreur d'interpolation pour obtenir le résultat. Et ici, l'estimation d'erreur d'interpolation, on peut l'utiliser parce qu'en fait, la fonction qu'on considère, U second, U est H2, parce qu'on a supposé que le membre de droite, F, était L2. Donc c'est là qu'on a besoin d'un peu de régularité sur le membre de droite pour avoir un peu de régularité sur U. Et si on voulait avoir plus de régularité sur U, pour utiliser des résultats d'interpolation qui donnent des résultats plus précis, bah, il faudrait faire plus d'hypothèses sur le membre de droite F. Voilà, donc avec le MDCA et l'erreur d'interpolation, on montre que l'erreur en norme H1 est d'ordre H. Et donc après, ça, on a vu en exercice que l'erreur est vraiment d'ordre H en norme H1, mais qu'en fait, si on regarde juste la norme L2, on peut gagner sur l'ordre et avoir une erreur en H carré. Et ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas se perdre sur toutes les fonctions qui sont introduites, et en particulier IH1 de U, c'est un objet qui est introduit dans la preuve de l'estimation d'erreur, mais en soi, ce n'est pas un élément utile d'un point de vue pratique. C'est juste un intermédiaire de calcul pour établir des preuves théoriques. Et donc ce qu'on a vu sur ce problème modèle, en fait, il y a plein de manières de le généraliser, avec d'autres conditions de bord, par exemple des conditions de bord périodiques, des conditions de bord de Neumann, de Robin, enfin voilà, différents types de conditions de bord qui peuvent prendre en compte les dérivées. On peut avoir des termes supplémentaires dans A, par exemple des termes d'advection-diffusion, c'est-à-dire en dimension 1, on aurait quelque chose du type moins U seconde plus A U prime, et éventuellement un potentiel qui serait plus VU, donc là ce serait un terme, c'est ce que j'appelle un potentiel, comme une image Schrödinger, A U prime, ça ce serait le terme d'advection. Et puis après, on peut, comme je disais, faire des éléments finis d'ordre supérieur, P2, P3, PK. Et puis éventuellement aussi en dimension plus grande, avec des mailles qui seraient soit quadrangulaires, soit triangulaires. En dimension 2, puis après en dimension 3, vous imaginez ce qui peut se passer. Alors pour finir ce cours, je vous rappelle que le lundi 13 janvier à 9h15, vous avez un examen, qu'il faudra bien rendre la question 4 du TP dans la copie d'examen. Et le jour de l'examen, ce n'est pas un retour de vacances, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre dans la copie d'examen. Et le contenu, j'insiste sur le fait que c'est vraiment tout le poli, sauf le chapitre 5 sur les EDO. Mais sinon, c'est vraiment tout le poli et il faut vraiment bien connaître tous les premiers chapitres. Ce n'est pas juste la deuxième partie du cours, c'est vraiment tout le poli, sauf le chapitre 5. Et il y a une séance, pour vous aider, il y a une séance de TPA le lundi 6 janvier à 13h45, où vous pouvez vous faire aider sur la question 4 du TP, qui est, attention, difficile. Enfin, pas si facile, il faut se prendre le temps d'y répondre. Et j'ai donné comme instruction chargée de cours de ne vous aider à répondre à ces questions que si vous avez cherché avant. Et en particulier, je vous conseille de faire un petit dessin pour bien calculer les éléments de matrice. Et les chargés de cours qui seront présents aussi au TPA vous aideront pour les questions qui est de l'examen du 13 janvier. Pour lequel le corrigé ne sera pas mis en ligne pendant les vacances, et pas avant la séance de TPA en tout cas.